L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'aime, l'émission quotidienne de Transistor, nouveau nom de Radio Évasion. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h. Et aujourd'hui, nous assurons le droit de suite. On revient sur une histoire ancienne, assez ancienne, une émission que nous avions faite en 2022 à propos d'un projet Historad. Comme son nom l'indique, il est question d'histoire et de RAD de Brest, bien sûr. Mais c'est un laboratoire de biologie marine et non pas d'histoire qui porte ce projet. Le LEMAR de l'Institut universitaire européen de la mer et de l'Université de Bretagne occidentale. Le projet Historad s'intéresse en effet au passé des espèces marines de la RAD de Brest pour comprendre leur état écologique actuel. Celui qui porte ce projet depuis le début et qui écrit actuellement sa thèse, c'est Lucas Bosboeuf qui a bien voulu s'interrompre pour revenir avec nous dans le studio et revenir sur ce projet, sur son état d'avancement. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que c'est un projet de recherche, mais en plus il était un peu participatif, ça avait ce côté original.
Oui, tout à fait. Alors, je suis historien et on a l'habitude de consulter des archives, de récolter des informations par le biais de ces documents. Sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des archives qui ont été réduites en cendres à Brest. Et on savait très bien, en discutant avec des habitants de la Rade de Brest, qu'il y avait une mémoire orale, mais aussi matérielle, qui était conservée dans les armoires. On s'est dit, il faut absolument qu'on mette à profit tout ça, il faut profiter que les gens soient encore là pour nous témoigner l'histoire de la Rade de Brest. Et c'est pourquoi on a lancé un site internet, historad.fr.
Et donc vous avez collecté, là, depuis 2022, vous avez réussi à collecter
Oui, on a réussi à collecter quelques documents. Alors, il y a des profils assez différents. On est à la fois des personnes qui sont intéressées et qui, de leur côté, font leur recherche. Et ils ont vu Historad, ils ont dit, je vous passe complètement toutes mes recherches que j'ai faites depuis 20 ans. C'est à vous, vous en faites ce que vous voulez.
Donc des historiens amateurs, quoi, en fait, en quelque
Absolument,
sorte.
Absolument, des historiens amateurs qui sont plutôt du côté de Plouzané ou de Poulgonvelin. On a également des personnes qui ont écouté, par exemple, la radio, qui ont lu la presse, qui ont vu qu'on s'intéressait à ça. Je pense notamment à un collectionneur de cartes postales donc qui était Aurélie Curion et lui qui nous a confié donc ses cartes postales et heureusement qu'on a pu aller le voir puisque ces cartes postales révélaient la conservation et le stockage de produits chimiques sur le port de Brest, on voit mais c'est presque à nu. Et
donc les cartes postales peuvent vraiment nous apprendre quelque chose sur l'écologie marine. Quoi.
Ah, complètement. Enfin, ouais. Ensuite, j'ai diffusé ces cartes postales auprès de notre réseau scientifique et on était ahuris de voir que y avait de l'acide sulfurique qui était conservé en bonbonne à même les quais. Et en fait, on s'est dit, mais il n'y a aucune précaution. Enfin, on ne pensait pas du tout à ça, en fait. Donc déjà, ça nous éclaire sur cet aspect-là. Il y a d'autres personnes, je pense notamment à Marie-Annick Guivarche, qui, elle, est une fille de pêcheur et qui nous a passé ses photos, donc les photos de son père, pour nous aider à reconstituer les pratiques des pêcheurs. Et enfin, il y a des institutions, je pense au Musée de la Fraise et du Patrimoine de Plougastel, qui, eux, nous ont ouvert leurs portes et les archives pour qu'on puisse photographier les archives et documenter notre recherche.
Vous en récoltez encore, éventuellement? Ou est-ce que l'appel tient toujours ou c'est un peu tard?
Alors, l'appel tient toujours, mais comme vous l'avez précisé dans votre introduction, je suis en thèse, c'est un travail de 3 ans, et là, la dernière année est consacrée uniquement, ou du moins majoritairement, à l'écriture d'une thèse, d'un rapport de plusieurs centaines de pages. Donc pour l'instant, on va dire que je vais laisser ça en veille, mais je n'oublie pas. Et de toute manière, le projet va se perpétrer et continuer jusqu'en 2025. De 2024 à 2025, je serai, on va dire, un peu plus soulagé et je pourrai recommencer cette consultation.
Donc l'histoire que vous étudiez en particulier, donc ça remonte à quand à peu près
18e siècle.
Oui, d'accord. C'est l'état écologique de la Rade de Brest, on peut dire ça, pour
oui,
résumer.
Oui, tout à fait.
Et ça passe, cet état écologique, par les ressources. Quelles étaient les ressources majeures qui étaient exploitées dans la Rade et que sont-elles devenues?
Alors, il y en a plusieurs, parce qu'on a de la chance d'avoir une Rade qui est très riche en termes de biodiversité. Les hommes, au XVIIIe siècle, ont pu se reposer sur plusieurs espèces, à savoir les huîtres plates, la sardine. C'est assez impressionnant, mais il y a eu...
Rade de Brest, il y avait de la sardine.
Il y avait de la sardine, et il y en avait même beaucoup. Alors c'était aléatoire, parce que la sardine est un poisson capricieux. et il faut qu'elles parviennent à avoir tous les éléments nécessaires pour se réfugier dans le goulet, donc des éléments nutritifs, etc. Donc la sardine, il y avait aussi l'huître plate, et ensuite il y avait des poissons frais qui sont pêchés par des pêcheurs, donc notamment les kérors qui sont basés au Relecq-Kerhuan, et du goémon qui sert aussi pour fertiliser les champs.
Il y avait également du merle.
Le merle est arrivé un tout petit peu plus tard, mais au début du 19e siècle, mais lui aussi il a été utilisé pour amender les champs, là notamment les terres de l'intérieur qui étaient des terres un peu plus lourdes, qui avaient besoin d'être drainées, qui redressaient le pH aussi.
Oui, parce que bon, le merle, pour rappeler ce que c'est un peu comme un corail, donc c'est vraiment très calcaire. Et,
tout à fait.
Et c'est ça, ça sert à corriger l'acidité des champs. Enfin, ça servait, parce que c'est
interdit maintenant.
Voilà, c'est désormais interdit de récolter du merle, donc ça. Et la coquille aussi.
Bien sûr, voilà. La fameuse coquille que tout le monde connaît, qui, elle, est plutôt intervenue à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. On a des archives qui montrent très bien qu'en 1850, il n'y en avait pas en rade de Brest, et qui, donc les coquilles Saint-Jacques sont apparues. On ne sait pas pourquoi, mais très massivement, au début du 20e siècle. Pardon.
Ah oui, donc vraiment récent.
Vraiment récent, oui.
Et donc elles ont été pêchées.
Elles ont été pêchées, exploitées, et elles se sont effondrées.
Voilà, parce qu'on parle beaucoup de ces ressources au passé, là, jusqu'à présent, parce que finalement, bon, à part le goémon, elles sont toutes en mauvais état, c'est ce que vous avez constaté, vous ?
Oui, alors en tout cas, c'est ce que me rapportent les scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Les huîtres plates, aujourd'hui, en 2013, en tout cas, il y a eu un débarquement à 21 tonnes. Nous, on voit à 1853, c'est 1900 tonnes. Donc voilà, il y a une différence incroyable. Pareil pour les coquilles Saint-Jacques, où on remarque qu'un débarquement de coquilles Saint-Jacques en 1952-53 équivalent à 2600 tonnes, alors que 10 ans plus tard, même 20 ans plus tard, ça chute à 100 tonnes, moins de 100 tonnes, 50 tonnes.
Elle est encore pêchée, la coquille Saint-Jacques ?
Elle est encore pêchée, mais ça reste beaucoup plus compliqué. Il y a des mesures sanitaires et le stock n'est plus aussi abondant qu'avant.
Et l'huître plate, elle était pêchée, mais est-ce qu'elle est cultivée encore maintenant ?
Cultivée, oui, elle reste cultivée en rade de Brest par quelques ostréiculteurs, mais c'est, je crois, assez marginal par rapport à ce que c'était auparavant.
Alors, le merle, on n'a plus le droit, évidemment, de le ramasser. Est-ce oui. qu'on sait, je suppose qu'on sait aussi que son stock s'est effondré, qu'il a pas mal disparu de la rade, j'imagine.
Eh bien, là, pour le coup, je ne sais pas. Bon. En fait, on s'attendait à ce que, effectivement, le stock soit appauvri, sauf que dans les archives, il n'y a aucune mention d'appauvrissement.
En alors tout cas, on sait qu'il y en a encore.
Mais... Alors que pourtant, le merle est une espèce qui se reproduit et qui grandit très lentement à raison d'environ 1 cm tous les 10 ans. Et qu'un passage de drague, ça enlève 4 à 5 cm de substrat. Donc un seul passage de drague en quelques minutes, ça enlève 40 à 50 ans de croissance. Quoi. Et malgré tout, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune archive qui nous dit qu'il y a un appauvrissement de merle.
Et la sardine, c'est sûr qu'il y a un appauvrissement.
La sardine, en tout cas, elle n'apparaît plus en rade de Brest. Elle ne franchit plus le goulet. Beaucoup plus occasionnellement, en tout cas l'activité de pêche ne peut pas être soutenable en rade là-dessus.
Alors après, bon, il y a les constats, donc effondrement de ces ressources, et puis il y a les causes évidemment. Donc là, peut-être que vous allez plutôt nous développer les huîtres plates et les coquilles, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors là justement, on est en train de voir les huîtres plates, elles ont été abondantes a priori tout au long du milieu du 19e siècle, donc 1850. On a un pic en 1853, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des débarquements pharaoniques, enfin pour nous en tout cas, puisque c'est 1900 tonnes. Et puis en 1857, il y a un effondrement brutal, sec, où il n'y a que 90 tonnes de huîtres plates qui sont collectées.
Ah oui, une date très précise en plus.
Une date très précise. Alors, quand on arrive à étudier certains documents, etc., on s'aperçoit qu'en fait, cette rupture n'est pas aussi brutale qu'on ne le pensait. Elle était progressive.
Et il y avait des alertes, mais on ne les avait pas vues, c'est ça ?
Il y a des alertes, mais personne ne les avait vues. Ah, effectivement, ouais. Mon hypothèse, en tout cas, à ce stade, alors peut-être qu'elle va être donc infirmée ou plus tard, mais j'ai tendance à penser que les autorités maritimes se sont occupées très tardivement de la gestion des ressources marines en rade de Brest. Au XVIIIe siècle, en fait, Brest, c'était la marine, c'était l'arsenal.
La défense, quoi.
La défense. Aucun intérêt à aller regarder ce qui se passait du côté de l'écosystème marin. Sauf que, tout au long du XVIIIe siècle et même du XIXe siècle, il y a nos voisins bretons qui ont constaté des appauvrissements d'huîtres plates. Les autorités maritimes ont été un petit peu obligées et contraintes de se saisir de ce dossier, d'autant plus qu'au même moment, où les huîtres plates se sont appauvries et ont
rendu... Donc, quand vous dites les voisins, c'est qui? C'est des gens de...
Cancale, Granville, Saint-Brieuc, et même dans le sud, dans l'Odé.
Ah ouais.
Vraiment, c'était global. Mm. Et au même moment où les huîtres plates s'effondrent, eh bien, il y a l'exploitation du merle qui est en croissance. Les autorités maritimes ont pris à bras-le-corps ce sujet et en fait, elles ont dit... elles ont rapproché l'approvisionnement des huîtres plates à l'exploitation du merle. En d'autres termes, parce qu'on est, on drague le merle, il y a moins d'huîtres plates. Sauf que bah, la société d'agriculture venait enfin de trouver donc un amendement cher à ces terres marines, à terres intérieures, pardon. Et il y a eu un conflit ouvert entre la marine et la société d'agriculture.
Conflit d'usage, voilà.
Conflit d'usage. La rade est au centre des intérêts au milieu du 19e siècle. Et donc, la marine est obligée de gérer un peu mieux ses ressources. Donc, elle gère un peu mieux ses ressources, elle établit des bilans, des rapports, elle cherche à connaître comment se reproduit l'huître plate. Sauf que, eh bien, pour venir à mon idée de départ, elle n'a pas de visibilité sur ce qu'est une bonne pêche avant 1840.
Ah oui, il n'y a pas eu de statistique de relevé des pêches d'huître plate avant.
Aucun suivi. Mmh. Aucun suivi. Non. Donc, c'est-à-dire que ce qu'elle connaît, c'est seulement des épisodes d'huître plate appauvries. Donc, ce n'est pas vraiment des bonnes pêches. Et quand elle voit une hausse en 1853 à 1900 tonnes, elle se dit « Super, le stock est revenu, on ouvre tout, ça a été le cas, open bar, on invite les copains et les voisins à venir en rade de Bresse pour exporter les huîtres plates. » Sauf qu'en fait, dans l'écosystème, eh bien, il semblerait que ce n'était pas aussi abondant qu'avant. Quoi. Aussi abondant que l'état initial des huîtrières.
Avant 1840, quoi.
Voilà. Et donc, j'ai tendance à penser qu'il y a eu une surexploitation. Et l'effondrement a été net et brutal en 1857, où là encore, il y a des justifications biologiques, puisque l'huître est une ressource densité dépendante, c'est-à-dire que plus il y a des huîtres plates au mètre carré, plus il y a de chances qu'il y ait un recrutement et une reproduction. Si on drague trop ses fonds et qu'il y a moins d'huîtres plates par mètre carré, c'est plus difficile. D'où potentiellement l'explication de ces effondrements.
Mais la surexploitation, donc, c'est une surpêche, mais aussi le merle quand même.
Merle, effectivement, c'est un habitat marin qui sert à plus de 300 espèces qui abrite 300 espèces par mètre carré. Il y a quand même de fortes chances que, effectivement, ça ait contribué à dégrader l'état des huîtres plates.
Et vos collègues de biologie marine, ouais, trouvent pas ça délirant, enfin, j'imagine.
Pas du tout.
Ouais, c'est ça, parce que vous travaillez aussi, on pourra y revenir éventuellement, mais vous faites partie d'un comité plus vaste de scientifiques qui se penchent sur la rade de Brest,
oui.
Dont on reparlera prochainement dans ces émissions. Donc c'est intéressant, effectivement, d'avoir le point de vue historique. Sur la coquille, c'est quoi le scénario, en gros?
La coquille, c'est à peu près similaire, hélas, puisque... Le début de l'exploitation remonte aux années 1890 à peu près, où là, par le biais des archives et des journaux, on arrive à voir qu'une bonne pêche de coquille Saint-Jacques, c'est 200 kilos par jour. Alors, ce qui est aujourd'hui totalement impensable, on va dire, en rade de Brest. Et pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de législation, pas eu de réglementation jusqu'aux années 1930. Et les premières réglementations ne viennent pas des autorités maritimes, mais des pêcheurs eux-mêmes, qui sollicitent directement les autorités maritimes pour dire « là, on est un petit peu en train de tirer sur la corde, il faudrait peut-être réglementer un petit peu tout ça ». Et donc, malgré tout, les réglementations sont insuffisantes, les cris d'alarme et d'appel de la branche professionnelle ne résolvent rien du tout. Et en 1852-53, il y a la généralisation du moteur. Tous les bateaux ou la grande partie des bateaux en rade sont motorisés. Et évidemment, c'est un changement important, puisque alors que quand on pêchait par voile, il fallait s'accommoder du vent. Et donc, en général, les pêcheurs ne pêchaient que la moitié du temps autorisé.
Ah oui, il y avait des pauses dans la pêche, quoi.
Il y avait des pauses qui étaient imposées par le vent, en fait. Soit il y a trop de vent, ils ne peuvent pas sortir, soit il n'y a pas de vent, ils sont obligés de rester à quai. Et en fait, l'avènement du moteur délivre un certain confort aux pêcheurs, ça c'est indéniable. Mais à l'inverse, ça met une régularité. Donc, ils peuvent sortir tous les jours, draguer de manière assez uniforme les fonds. Et... Le point de rupture, là aussi, est apparu en 1862-63, où cet effort de pêche assez important, combiné à un hiver assez rude, a fait effondrer le stock.
Oui, parce que les coquilles n'aiment pas trop les hivers rudes. Oui,
exactement, les coquilles sont un peu frileuses, et donc dès qu'il y a une grosse période de froid, les coquilles n'arrivent plus à s'enfouir sous le sable, elles sont nues sur le substrat, et elles sont plus facilement accessibles.
Donc des surpêches pour les coquillages qui finalement sont assez anciennes. En plus, c'est pas du tout le XXe siècle finalement, la surpêche.
Tout à fait.
Ouais. Et pour la sardine, on a une explication éventuelle
Pas du tout. Ouais, hélas, là, on a essayé de travailler avec des scientifiques, mais la sardine est un poisson tellement complexe, qui est vraiment régi et animé par un tas de caractéristiques que, hélas, on ne peut pas dire pourquoi.
Donc, le projet Istoran met en évidence des surexploitations de ressources, hein, c'est clair. Il y a quand même aussi des histoires de pollution, j'imagine, qui n'arrangent rien. Donc, vous en avez en tout cas raconté dans le projet Istoran, qui dispose d'un site internet. Est-ce que vous pouvez nous en raconter une ou deux ou trois?
Alors oui, effectivement, en plus de ça, comme vous le dites, les ressources marines doivent être confrontées aux pollutions. Je pense notamment à des pollutions qui ont lieu dans l'Aulne, à Trégarvan, très fréquemment, tout au long du XVIIIe siècle, XIXe siècle et même XXe siècle, il y a des gendarmes maritimes qui inspectent les bancs de la Harde de Brest, pour voir les bancs d'huîtres plates, pour voir en fait quel état de santé ils sont. Oui, s'ils sont en bon état de santé, on ouvre. S'ils sont en mauvais état de santé, on ferme. Pour ce faire, ils se munissent d'une drague, ce qu'utilise un pêcheur. Ils draguent donc les bancs, ils relèvent les huîtres et... Sauf qu'à Trégarvan, à plusieurs reprises, que ce soit en 1849, en 1850, en 1860 et même plus tard en 1930, eh bien, les gendarmes maritimes s'aperçoivent que les huîtres sont marronnées, qui s'effritent à la seule pression du doigt.
Ah oui, c'est carrément visible, quoi. C'est pas des micro-organismes invisibles.
Oui. C'est totalement visible. Ah ouais. Et en fait, c'est un indicateur, en parlant avec des biologistes spécialisés, ce serait un indicateur de pollution. Alors, on avait plusieurs pistes au début de cette étude. Et il s'avère que par élimination, eh bien, il nous semble que l'objet de ces pollutions et l'origine de ces pollutions, ce soit les mines de Wellgoat et de Poulaouen, qui sont situées quand même à plusieurs dizaines de kilomètres. Des
de
mines d'argent.
Argentifères.
Tout à fait. Que vous avez peut-être entendu parler.
On a fait une petite émission là-dessus, ouais, c'est vrai. Oui,
très bien. Et en fait, il semblerait que l'exploitation, qui remonte quand même au XVIIIe siècle, donc en tout cas, et l'apogée est au XVIIIe siècle, eh bien, en exploitant ces mines, il y a des minéraux qui se conservent et qui se logent dans des poches d'eau. Et à chaque période de grosse pluie, il semblerait que les eaux de pluie viennent lessiver ces poches, les entraîner dans les bassins versants, les diriger vers les rivières, vers l'Aulne et vers l'Arade. Et il y a très fréquemment les paysages sous-marins de l'Aulne qui sont affectés par ça. Aujourd'hui, quand on parle à des biologistes, ils se retrouvent totalement dans ces archives, puisque en parlant à Stéphane Pouvreau, qui est un biologiste chargé d'étudier les huîtres plates, il va plonger à Trégarvan et lui, plusieurs fois, il m'a dit qu'en fait, c'était un paysage lunaire.
Et pourquoi cet endroit-là, précisément Trégarvan ?
Eh bien, je ne sais pas du tout.
C'est les courants, en fait, sans doute, qui entraîneraient le dépôt. Et c'est quoi les minéraux en question qui se déposent ?
Comme vous le disiez, du plomb, de l'argent.
Et le mercure, par exemple, qui a été utilisé pour le traitement, non ?
A priori,
il
n'a
pas été étudié. Ah oui.
Oui.
Donc les mines argentifères, de plomb argentifère. D'autres pollutions encore. Enfin, vous parliez de l'acide sulfurique, là, qu'on voyait sur les cartes postales, mais l'affaire Dior, c'était quoi, par exemple ?
Alors oui, l'affaire Dior est un peu plus tardive, remonte aux années 1935, où il y a un garde maritime le 13 octobre qui fait son inspection habituelle, donc sur les rives de l'Élorne, et il s'aperçoit qu'il y a plusieurs centaines de poissons qui sont morts, vraiment ventre en l'air au niveau de l'Élorne. Il mène sa petite enquête et il en déduit que c'est donc l'usine Dior qui aurait, je sais pas, une fuite accidentelle de ses produits.
Qu'est-ce qu'elle fait cette usine ?
Et l'usine Dior, effectivement, elle est chargée de concevoir et de fabriquer des engrais marins, engrais chimiques, pardon.
Non.
Donc c'est du superphosphate, du phosphate, sulfate de chaux, etc. Et cet épisode, suite à ça, le gendarme maritime alerte ses supérieurs. Le laboratoire municipal de Brest est mandaté, donc Léon Forcy, qui est un chimiste, se dirige vers les lieux. Il va donc à la sortie des eaux de l'usine Dior, il inspecte les eaux qui sont jaunâtres. Et en fait, il inspecte le taux de pH et il le détermine à 2,3. C'est très acide et le taux en acide sulfurique est 20 fois supérieur à ce qui était autorisé en 1937. Il semblerait que quand même.
C'est pas le même acide sulfurique qu'on voit sur les cartes postales ou si ?
Je pense que c'est celui-là. Après, je ne sais pas si ça provient de leur usine, mais ce serait je pense assez logique de penser que c'est eux. En tout cas, il n'y a plus de doute, l'usine Dior serait responsable de cette pollution en rade de Brest. Il mandate donc une autre enquête pour voir pourquoi en fait il y a eu cette pollution. Et là encore, Léon Forci est mandaté pour inspecter. Il n'observe aucune déchirure ou éventrement, d'une cuve d'acide sulfurique. Rapidement, c'est donc porté la question, est-ce que c'est une pollution qui est accidentelle ou volontaire ? Puisqu'il n'y a eu aucun incident, aucune trace en tout cas d'un accident. Hélas, il y a plusieurs éléments, plusieurs enquêtes qui sont réalisées, le directeur est mis en cause, il nie évidemment, et en 1937, ça se conclut par un non-lieu.
Cependant, on n'a pas pu les prendre en flagrant délit.
On n'a pas pu les prendre en flagrant délit. Cependant, nous, on a retrouvé dans les correspondances des autorités maritimes qu'il y a plusieurs agents des autorités maritimes qui sont même assez bien placés, qui pensent que en fait, c'était un déversement qui n'était pas du tout accidentel, qui était volontaire. Mais faute de preuves, la justice n'a rien pu faire et conclut par un non-lieu.
Et de toute façon, il y avait pas mal d'usines jusqu'à finalement récemment autour de la rade, je suppose.
Oui, puisque justement, lors des premières accusations, le directeur de l'usine Dior a accusé des tanneries et d'autres grandes usines de la Palue qui sont situées même proches de Moulin Blanc.
Et ça, là-dessus, vous avez pu avoir des éléments sur les pollutions ordinaires, entre guillemets, des différentes usines autour de la rade ou
Non, pas encore. Ouais. En revanche, justement, je tiens à souligner un travail qui est fait en parallèle de la thèse Historade. C'est un travail qu'on construit ensemble. C'est Clara Valero, qui est également en thèse, et qui, elle, est chargée d'étudier les carottes sédimentaires de la rade de Brest. Concrètement, elle va piocher des carottes et creuser des carottes dans la rade de Brest, et elle va observer des mouvements sédimentaires, elle va observer des anomalies de pollution. Et si elle voit, par une analyse chimique, qu'il y a une anomalie, on va essayer de raccorder ça, nous, avec nos archives.
Elle va remonter jusqu'à quelle époque, à peu près, elle
Milieu du 19e siècle,
pardon. Ouais, pareil.
Ouais, donc, tout à fait.
Ouais, ça va vous permettre, en effet, d'avoir un tableau. Et puis, j'imagine qu'il y avait peut-être encore d'autres pollutions, mais peut-être d'origine... Enfin, est-ce qu'on avait des pollutions d'origine agricole à cette époque ? Oui, peut-être.
Je ne pense pas.
Non, ouais, c'était une autre époque. La ressource a été malmenée parce qu'elle a été surexploitée. Il y a eu des pollutions. Il y a eu encore d'autres problèmes que vous avez pu identifier
Pour le coup, en général, c'est plutôt ça. Les caractéristiques majeures, c'est surexploitation, dégradation des habitats et pollution.
Vous avez recensé dans votre projet Historade des fraudes.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un épisode ?
Alors, les fraudes, il y en a beaucoup. En tout cas, on nous en rapporte énormément. C'est d'ailleurs un sujet qui est largement invoqué pour attribuer l'appauvrissement d'une espèce. Typiquement, les ressources marines diminuent. Les autorités disent c'est la fraude, les fraudeurs.
Donc des surpêches non autorisées, c'est ça ? Enfin, du braconnage,
C'est une pêche illicite qui peut se caractériser en plusieurs temps. Donc ça peut être pêché en dehors des horaires, on pêche la nuit alors que ce n'est pas du tout autorisé. Ça peut être pêché des coquilles qui sont de trop petite taille alors qu'on avait fixé une limite. Ou ça peut être pêché notamment des trop grosses quantités autorisées. Il y a plein d'exemples, mais j'ai un exemple en tête particulièrement. C'est en 1865 où... En fait, lors d'une inspection, pendant la nuit, sur le banc de Saint-Jean, qui est dans les Lornes, à quelques encablures de Kerhuon.
Huîtres plates aussi,
oui. Huîtres plates, ouais. Exactement. Les gardes maritimes s'aperçoivent qu'il y a 120 hommes qui draguent en fraude les huîtres plates.
Et oui, l'armée.
Et justement, une armée sur laquelle ils déplorent leur impuissance, puisque dans leurs lettres adressées à leurs supérieurs, ils leur disent « Mais en fait, nous sommes 5 ». Que pouvons-nous faire contre 120 personnes qui, en plus, nous balancent des cailloux ? Voilà, donc c'est ce genre parfois de fraudes qui sont très organisées, massives, qui ne sont plus des escarmouches, ouais. Mais qui témoignent aussi d'un malaise, puisqu'en 1865, c'est une période à laquelle il n'y a plus beaucoup d'huîtres plates en rade de Brest, les bons sont effondrés, et la marine essaye de redresser l'activité en cadenassant justement cette pêche. Et automatiquement, en cadenassant une pêche, ça suscite des convoitises, ça suscite de la frustration et de la fraude à large échelle.
Cercle vicieux, en fait.
Tout à fait. Ouais.
Et encore, devait y avoir plus de gendarmes maritimes à l'époque que maintenant, en plus, peut-être, non ?
Déjà, il y en avait très peu. Quand justement, je fais des interventions sur la fraude et les moyens qui sont accordés à la surveillance à des pêcheurs, franchement, ils sont ahuris de voir que ça n'a pas changé, quoi.
D'accord. Alors, Lucas Bosboeuf, il vous reste une minute pour nous dire si, à votre avis, de votre point de vue d'historien sur ce projet, est-ce que tout a été fait pour préserver la rade ?
Je le pense. Très probablement, je le pense. Sauf que ça a été trop tard. À chaque fois que les autorités maritimes se sont aperçues d'un effondrement d'espèces, ils ont agi vraiment en conséquence de cause, mais trop tard. Lors de la disparition des huîtres plates, les autorités maritimes ont cadenassé, je vous le disais, littéralement, l'activité. Lorsque les bancs d'huîtres de Coquille Saint-Jacques se sont effondrés également, là aussi, la réaction était massive, franche et rapide. Les pêcheurs également ont été très présents pour sauvegarder les bancs d'huîtres de Coquille Saint-Jacques. Je pense qu'on est allé jusqu'au bout, à la fois dans l'exploitation, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de ressources marines, mais aussi dans la gestion, dans la volonté. Sauf que, voilà, on y est allé trop tard.
Très bien. Ben, on va vous remercier. On va inviter les gens à retourner sur le site internet historade.fr et puis on va vous souhaiter un bon courage pour la rédaction de votre thèse.
Merci beaucoup et merci pour votre invitation.